Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Aurel BGC. On parle avec vous des marchés, des perspectives sur ces marchés. Alors, un contexte de croissance qui semble meilleur sur le plan mondial, on va y revenir avec vous. Mais c'est vrai que quand on parle avec les investisseurs, on voit bien qu'ils ont ce souci aujourd'hui des rendez-vous politiques. Il y a eu le Brexit, il y a eu Donald Trump, il y a la France aujourd'hui qui est au centre de toutes les attentions des investisseurs internationaux. Vous aussi, vous ressentez ça?
Oui, ça a été un élément qui a été très clairement un frein. Alors un frein déjà pour investir sur la bourse européenne. On l'a vu dans les flux d'investissement des non-résidents, des étrangers sur la bourse européenne, alors qu'on allait massivement sur les actions américaines, beaucoup sur les actions japonaises. On a mis un peu l'Europe de côté, hein, on a vu ça, et je pense que c'est en partie ce risque politique. Alors un risque politique qui est quand même sur deux pays principalement, la France avec ses élections présidentielles et l'Italie. Et l'Italie, pour l'instant, on n'a pas encore, on ne sait pas si on va avoir des élections anticipées cette année, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça reste aussi un sujet de préoccupation pour beaucoup d'investisseurs. Donc l'idée derrière tout ça, hein, ce n'est pas quelle est la couleur du parti qui va l'emporter, c'est est-ce qu'il y a un risque réel d'arriver au pouvoir d'un gouvernement qui veut une sortie de l'euro et derrière, ce serait la fin de l'Europe quelque part, si c'est un pays majeur avec un poids important. Déjà avec la Grèce, on a vu ce que ça a fait sur les marchés et l'impact, donc on imagine si c'était l'Italie ou la France, ça affaiblirait et même ça casserait la construction européenne.
Donc pour l'investisseur, effectivement, on peut retrouver ce type de pari, c'est-à-dire, ou en tout cas de précaution. La Grèce, effectivement, il y a des investisseurs anglo-saxons qui pariaient sur l'éclatement de la zone euro. Il n'a pas eu lieu. Et là, il y en a qui ont pu essayer à un moment donné de faire la même chose.
Alors après, oui, il y a eu sûrement un peu de spéculation, mais je dirais qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont plutôt restés en position d'attente. Leur gros problème qu'ils avaient face à ce risque, c'est qu'ils se réalisent ou ils se réalisent pas. Et c'est difficile. S'ils se réalisent, clairement, si on est sur un parti qui veut sortir de l'Europe et qui va les rembourser avec une nouvelle monnaie qui serait peut-être le franc ou la lire italienne, si on était dans ce cas-là, il faut tout vendre. Il faut vendre toute sa position. Là, c'est pas le cas. On va pas prendre une telle décision si aussi extrême sur quelques sondages. Donc on voit qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est comment quantifier ce risque, et ça c'est très difficile, surtout depuis qu'il y a eu le Brexit qui a été une surprise, l'effet Trump. Donc là, on a quand même beaucoup de prudence par rapport à ça. Et puis derrière, c'est quand même une position extrême, c'est vraiment se couper d'une partie de son exposition à la France. Généralement, nous, quand on parle d'allocation d'actifs, on dit vous réduisez votre pondération, mais on dit rarement vous vendez tout. Là, on est dans ce cas de figure. Donc c'est vrai que c'est très très difficile en termes de gestion à intégrer dans un process de gestion.
Oui, et du coup, voilà, on va dire lundi, ça sera un sens ou l'autre, mais ça, du coup, ça peut être violent dans un sens positif si effectivement ça rassure les marchés, dans un sens négatif si effectivement les marchés ont peur de la suite.
Alors c'est d'autant plus que là, on voit clairement les marchés ont plutôt intégré un scénario rose, hein. On a plutôt dans l'esprit que ça sera plutôt une victoire d'un parti qui serait pro-Europe, qui va même peut-être renforcer l'Europe. Donc on n'est pas du tout dans ce discours-là. Sur l'Italie aussi, encore une fois, on n'a pas annoncé des élections anticipées. Peut-être que le jour où on annoncera, il y aura peut-être un petit peu une crainte sur les marchés, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc si véritablement ces élections présidentielles aux yeux des marchés se passent relativement bien, on sortira d'un risque majeur qui a vraiment pénalisé la valorisation des marchés depuis le début d'année. Maintenant, on est quand même sur des niveaux de valorisation élevés. On a intégré beaucoup de bonnes nouvelles. Je ne vous dis pas que sur l'ensemble de l'année, on va avoir des marchés euphoriques, rien que sur cette thématique. Mais on a éliminé un sujet de préoccupation et on reviendra sûrement à des sujets beaucoup plus économiques, beaucoup plus propres, soit aux entreprises, soit aux risques d'inflation pour les marchés obligataires.
Voilà, en tout cas, ça veut dire clairement aujourd'hui pour les investisseurs, ce facteur politique, selon les pays, eh bien, est un facteur à prendre en compte comme d'autres facteurs. Finalement.
Oui, alors clairement, parce qu'on le voit, même, c'est un coût économique. Alors je vais vous prendre un petit exemple qui va peut-être vous parler. La croissance américaine, elle a été particulièrement faible au premier trimestre. Dans cette faiblesse, c'est pas la seule chose, hein, mais une partie de cette faiblesse s'explique par la baisse des dépenses publiques américaines. Et pourquoi on a une baisse des dépenses publiques? C'est un retard, parce qu'on a eu tout ce qui est nomination du gouvernement Trump qui a pris du temps. On a eu une rotation au niveau de l'État fédéral qui a pris beaucoup de temps. Donc tous les projets ont ont été bloqués et on a beaucoup de dépenses fédérales qui ont été gelées, interrompues, mais pas volontairement. Par exemple, les projets militaires, d'investissement militaire ont marqué un brutal coup d'arrêt parce qu'il n'y avait personne pour signer ces projets-là et on attendait une nouvelle nomination de l'administration. Donc, vous voyez, une désorganisation au sein d'un pays, ça coûte aussi de la croissance, faut pas l'oublier. Des gens qui sont pas préparés à prendre le pouvoir, c'est aussi un coût sur la croissance. Donc, on peut pas éviter de mettre côté complètement, dire le risque politique, c'est pas grave. Il y a quand même un coût économique, un coût en termes de croissance et en termes de résultats d'entreprise si véritablement il y a des gens inexpérimentés qui arrivent au pouvoir.
L'autre, du coup, du côté de l'économie, est-ce qu'aujourd'hui l'économie mondiale, selon vous, se porte mieux? On va parler des États-Unis, de l'Europe, le reste du monde. Est-ce qu'on est dans un cycle de croissance intéressant?
Alors, on est pris entre deux éléments. Premier élément, si on regarde les données d'enquête, les enquêtes réalisées auprès des entreprises, on est véritablement sur une nette amélioration, une accélération, même si les enquêtes d'avril étaient moins bonnes, mais globalement, on va dire depuis la fin de l'année dernière et tout au long du premier trimestre, on a une nette remontée des enquêtes, donc plutôt un sentiment que ça va mieux. Maintenant, quand on regarde les données économiques de mesure d'activité derrière ça, on voit que c'est pas exceptionnel, ça reste bon. Alors si je vous prends l'Europe, en rythme annuel, on est sur une croissance de 2 au premier trimestre, mais aux États-Unis, on est à peine sur 0,7%, donc c'est très très faible en rythme annuel en termes de croissance. Et on voit qu'il y a un vrai écart. Par exemple, je prends un exemple, la confiance des ménages américains qui est au plus haut depuis 2000, et puis derrière une consommation qui a stagné, quasiment stagné sur le premier trimestre. Donc il y a un décalage entre ce que nous disent les chefs d'entreprise et ce qu'on perçoit dans l'économie réelle. Et la grande question qu'on a tous maintenant, c'est est-ce que c'est juste les données d'enquête qui nous annoncent ça va aller mieux demain, et dans ce cas-là, faut jouer une accélération de l'économie, ou alors est-ce qu'on a un faux signal qui nous est envoyé des données d'enquête pour plein de choses. Les ménages sont plus optimistes, mais ils vont pas changer leur habitude de consommation. Les chefs d'entreprise, il y a peut-être un effet Trump aux États-Unis, une illusion nominale. Par exemple, on voit très clairement que les enquêtes chinoises sont très dépendantes de la hausse des prix. Donc, il y a eu un petit retour d'inflation, une hausse des prix des matières premières. Donc, moi, j'ai répondu en tant que chef d'entreprise sur mon chiffre d'affaires. Pas forcément, j'ai pas vendu beaucoup plus d'acier, mais je l'ai vendu plus cher. Donc, j'ai dit, ça va beaucoup mieux. Mais en réalité, il n'y a pas de croissance derrière tout ça. C'est juste un effet d'illusion nominale, un effet prix. Donc, il y a peut-être des petits éléments qui fait qu'on a peut-être une vision un peu perturbée. Il y a des données d'enquête qui nous donnent une image peut-être un peu trop positive de l'économie mondiale. C'est bien, mais il n'y a peut-être pas l'accélération qu'on serait en droit d'attendre. Je vous prends juste une image. Si vous interrogiez les chefs d'entreprise, le niveau d'enquête de l'ISM vous donnait une croissance américaine autour de 3%. On est pour l'instant à 0,7, même si ça rebondit au deuxième trimestre, on voit qu'on est quand même très très loin de l'image qui nous est reflétée dans ces données d'enquête.
Le mot de la fin pour cette allocation d'actifs, alors on a évoqué tout à l'heure les éléments politiques, mais globalement avec la hausse de taux tout de même attendue cette année aux États-Unis, ou plusieurs hausses de taux en tout cas, l'arbitrage action-obligation, quelle est un peu l'allocation et comment évolue l'allocation d'actifs?
Alors, d'un côté, on est pris entre deux feux parce que d'un côté, j'aurais tendance à vous dire privilégier les actions parce qu'on est quand même dans un scénario économique positif, même si c'est pas aussi euphorique que nous le donnent les enquêtes. Je vais pas vous dire qu'il y a une récession, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt bien orienté, on a des entreprises qui maîtrisent très bien leurs coûts. Donc ça, je dirais que c'est plutôt positif et je dirais que fondamentalement, sans être euphorique, je pense qu'on est quand même sur un rythme de croissance solide, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On n'est pas sur quelque chose de très négatif. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le niveau de valorisation et surtout le niveau très élevé de valorisation de la bourse américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la bourse américaine, j'ai l'impression qu'on n'attend pas seulement une croissance à 2. On est en train de jouer une croissance à 3, une accélération très forte de l'économie, des baisses d'impôts. Alors, est-ce qu'elles vont passer, est-ce qu'elles vont pas passer? Donc, il y a énormément d'incertitudes dans le scénario qui est aujourd'hui intégré dans le niveau de valorisation de la bourse. Donc ça, j'aurais tendance, ça c'est mon côté un petit peu prudent parce que du côté économie, je suis quand même sur un scénario relativement positif, mais du côté de valorisation des marchés, on sent que c'est tendu. Donc moi, je serais quand même assez prudent à court terme. On a une belle performance des marchés actions. Le risque pour moi n'est pas européen parce que véritablement, on a du potentiel de révision à la hausse des résultats des entreprises en Europe, mais le mauvais coup, je dirais, pourrait provenir essentiellement de Wall Street qui est quand même assez cher aujourd'hui. Et quand Wall Street baisse, de toute façon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas sympathique à entendre, mais c'est la bourse européenne, elle baisse beaucoup plus que Wall Street. Donc s'il y a vraiment une réaction négative du côté de la bourse américaine, ça se répercutera sur l'Europe, même si les fondamentaux restent bons. Et donc je serais plutôt prudent parce que je pense qu'il y a un vrai risque de déception sur l'administration Trump, sur ses baisses d'impôts. Il y a une économie américaine qui n'accélère pas et une banque centrale qui est devenue, entre guillemets, beaucoup plus faucon. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment continuer à normaliser sa politique monétaire, même si on reste sur une croissance de 2. Donc on est quand même dans un scénario aujourd'hui qui ne justifie pas que vous payiez 18 fois les résultats des entreprises américaines.
Merci Christian Parizeau.